complètement vôtre. Votre émission du jasmin d'argent.
Donc voilà un peu la poésie des années 80. Oui, je fais juste regarder l'heure. C'est bon, vous êtes en train de mourir. Donc, depuis les années 2000, qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis les années 2000, il y a vraiment quelque chose qui se passe en poésie au Québec. Ça bouge vraiment beaucoup. Toutes sortes de petites preuves de ça. On commence à éditer nos poètes dans des éditions de poche. Donc réédition, donc pour que ça soit plus accessible. Donc si les éditeurs font ça, c'est parce qu'ils pensent que ça va être acheté par Monsieur, Madame, tout le monde. Parution d'anthologie de la poésie québécoise, celle-là c'est une des plus récentes, donc 2021, vraiment consacrée à la poésie des femmes des dernières 20 années. Beaucoup de prix littéraires, il y en a qui existent depuis longtemps, le prix de poésie de Radio-Canada, le prix des libraires, le prix du gouverneur général. Prix Alain Grandbois de la poésie, prix de poésie de Félix Leclerc. Donc, il y a quand même un bon nombre de prix littéraires, dont plusieurs qui récompensent la poésie. Et il semblerait justement qu'il y a eu une sorte de prise de conscience dans le milieu de la poésie de la part des auteurs qui se sont dit, ben là, coudonc, comme on est un peu abandonné, un peu laissé à nous-mêmes par rapport à ce qui se passait dans les années 60-70. Il faudrait faire quelque chose. Donc, il y a eu vraiment comme une prise en charge des poètes par eux-mêmes. Fondation de revues de poésie, il y en existait déjà. Il y en a une qui est Estuaire, qui avait été fondée en 1973 ou 14. Une, la revue Existe, qui existe encore aujourd'hui, fondée en 94. Mais il va en avoir d'autres. Une des plus récentes, c'est la revue Femmes de parole, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Beaucoup de nouvelles maisons d'édition, qui publient pas uniquement de la poésie, mais certaines qui vont être spécialisées en poésie. Donc, vraiment, là, tu sais, La Peuplade, Le Cartanier, Les Mémoires d'Encrier, Poète de Brousse, Delbusseau, Triptyque, Quoi de Cravant. Je veux dire, beaucoup de... Pour un marché aussi petit que le nôtre, vraiment beaucoup, beaucoup de maisons d'édition, dont certaines avec une mission vraiment particulière. Donc, La Peuplade, c'est une maison d'édition parce que beaucoup de maisons d'édition au Québec sont situées à Montréal, quelques-unes à Québec, les deux pôles culturels les plus importants. Donc, La Peuplade, par exemple, c'est situé vraiment en région, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils ne publient pas que des auteurs de la région, mais c'est une de leurs volontés, c'est de dire, bien, tous les auteurs de ce qu'on appelle la Boréalie, donc le nord du Québec, qui parlent spécifiquement de cette identité propre à cette région-là, on voudrait bien qu'ils aient une place pour pouvoir publier. Il y a un poète d'origine haïtienne qui s'appelle René Saint-Éloi, qui a fondé en 2003 une maison d'édition qui s'appelle Mémoire d'Encrier, avec le désir de faire entendre la voix de ceux qui sont en marge, qui sont en périphérie. Donc, il va publier beaucoup d'auteurs migrants, qu'on appelait nous au départ. Donc, des auteurs qui avaient immigré au Québec et qui ont fait le choix d'écrire en français, soit dans certains cas parce que c'était leur langue natale, comme pour les Haïtiens qui maîtrisent très bien le français, mais d'autres même, beaucoup d'auteurs qui vont s'installer au Québec, qui au fil du temps vont se mettre à écrire en français. Puis maintenant, ben, René Saint-Éloi, il publie des immigrants de deuxième génération, donc des enfants qui sont nés de familles immigrantes, mais qui sont nés au Québec. Il va faire une grande, grande place aussi à la littérature autochtone, dont je vous parlais dans quelques instants. Donc, c'est vraiment... cette maison d'édition-là, un formidable outil pour faire advenir dans l'institution littéraire un nouveau souffle, des voix qu'on n'entendait jamais parce que personne n'y publiait. C'est la même chose que pour les femmes dans les années 80. Il a fallu qu'elles fondent leur maison d'édition pour pouvoir être éditées. Ben, c'est vraiment exactement la même chose là, avec René Saint-Éloi et Mémoire d'Encrier. Donc, certaines de ces maisons d'édition-là sont des maisons d'édition presque artisanales, là, qui publie trois recueils par année. D'autres ont une plus grande envergure. Certains ont leur spécificité, évidemment. Mais en plus de ça, donc, on voit un regain pour la poésie. Donc, on va justement entendre des voix plus diversifiées, des voix des gens qui appartiennent à des milieux plus modestes aussi, qui, parce qu'il y a des plus petites maisons d'édition, plus artisanales, qui vont pas, eux, les maisons artisanales ont envie de faire découvrir des auteurs, ils vont pas aller chercher les grands noms de la poésie québécoise. Donc, ils s'en fichent là, que les gens aient pas publié, au contraire, c'est ce qu'ils aiment. Donc, des fois, les poètes qui viennent de milieux ou pas très favorables à l'émergence d'une carrière littéraire, dans le fond, vont avoir accès à la publication grâce à ça, on retrouve vraiment un essor là, des micros libres, des soirées de poésie, des événements de poésie. Il y a des festivals de poésie qui sont créés. Il y a des rencontres de poésie. Donc, il y a vraiment une activité très, très grande. Là. C'est très, très, très bouillonnant. Le nombre de publications est quand même relativement stable depuis le début des années 2000. Donc, on parle à peu près 350 recueils de poésie publiés au Québec, ce qui, pour notre petit marché, est quand même vraiment beaucoup. Mais, puis, hausse très, très importante des ventes de librairies, parce que c'est pas tout publié, encore faut-il être acheté, mais hausse très importante des ventes de poésie dans les librairies, encore plus depuis la COVID. Je sais pas si ici, ça a eu le même effet, mais nous, on avait peur qu'avec la COVID, toute la culture disparaisse et meure. Ça a été vrai pour le théâtre, tout ça, mais les libraires, non seulement ont survécu, mais ont vraiment eu vraiment un boom. Les gens se sont rabattus sur la littérature et pour l'instant, même si la pandémie est à peu près terminée, cet intérêt-là persiste. Donc, meilleure vente de poésie. Cela dit, le marché occupé par la poésie au Québec reste très, très, très modeste, sauf exception, à peu près personne ne vit de la poésie au Québec. Il y a une poète qui a écrit dirigé cette anthologie-là qui dit, dans le fond, il n'y a pas de réelle compétition entre les poètes au Québec car on ne peut rien se voler, il n'y a pas d'argent et pas d'emploi. Donc, on existe de manière très anarchique, très punk, sans rémunération, sans grand espoir d'avancement non plus. Donc, soyons clairs. Puis, même si les ventes ont augmenté, il y a des éditeurs, tu sais, s'ils n'avaient pas de subvention, ils fermeraient leurs portes, là. Donc, c'est uniquement le soutien de l'État qui permet à certaines maisons d'édition de rester debout. Il y en a une, justement, à la maison, là, une petite maison d'édition qui s'appelait L'Écrou, qui publiait des poètes très inspirés par l'américanité et l'oralité. Ils ont duré une quinzaine d'années et ils viennent de fermer. Parce que là, ils disaient que je ne suis plus capable. Là. Je veux dire, c'est à perte tout le temps, mes trucs. Fait qu'il a décidé de fermer ses portes. De nouveaux thèmes apparaissent dans la poésie depuis les années 2000. L'identité de genre, sujet très à la page de l'actualité chez nous. L'éco-anxiété, le capitalisme, dans la mouvance du mouvement MeToo aussi, toutes les violences sexuelles faites envers les femmes. Donc, des thématiques féministes qui sont encore là depuis les années 80, mais là, qui prennent une couleur un peu différente. Et les auteurs de cette anthologie-là notent quand même que, enfin, les livres de poésie publiés en 2019, il y a 40% de publications de femmes. Donc, ça veut dire que là, la place des femmes dans le milieu littéraire québécois en poésie, elles l'ont vraiment conquise. On n'est pas à la parité, mais quand même. Et dans depuis aussi une vingtaine d'années, j'ai envie de ce qu'on peut appeler quasiment un phénomène, l'apparition, dans le fond, de la poésie autochtone au Québec. Donc, au Québec, il y a 11 nations autochtones. La littérature des Premières Nations, elle existe depuis des millénaires, mais sous forme orale. Principalement. Et il faut attendre les années 70 au Québec pour voir vraiment l'apparition d'une littérature autochtone sous forme écrite. Puis encore dans les années 70, c'est vraiment très plus que modeste en fait. Donc, et le premier texte vraiment paru en français au Québec, c'est en 1976. C'est un essai d'une femme d'origine Innu qui s'appelle Anantan Kapesh et qui s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse ». Donc, un peu comme on va voir certains Noirs désirer se réapproprier le thème de nègre pour dire, ben on va le transformer de façon positive, ce thème-là. Donc, c'est sûr que le thème sauvagesse avait une connotation très péjorative dans la bouche des Québécois ou peu importe des Blancs qui l'utilisaient envers les gens, les Autochtones, et elle, donc, elle se réapproprie ce mot-là. Donc, c'est vraiment un essai littéraire. Ce qu'on considère, en fait, parce qu'au Canada anglais, à la même époque, il y a plus de place pour la littérature autochtone. Et ce que la plupart des chercheurs en littérature que j'ai lus disent, dans le fond, c'est que c'est comme si au Québec, comme au début des années 60, notre propre identité culturelle était tellement menacée qu'il a fallu attendre d'avoir gagné vraiment de la confiance, d'avoir une institution culturelle forte de ne plus avoir besoin d'expliquer quelle était notre propre identité culturelle avant d'être capable de faire de la place pour notamment les auteurs migrants, puis notamment les auteurs autochtones. Et donc, tout ça, ça va aller presque au début du 21e siècle. Et ce qui est intéressant avec la littérature autochtone, vraiment, c'est super contemporain. Puis tout à l'heure, je vous disais, la littérature québécoise est très, très jeune par rapport à la littérature française. Mais là, la littérature autochtone québécoise, je vous dis pas, là. C'est vraiment, elle en est presque à ses balbutiements. Mais c'est particulièrement de la poésie qui est écrite et beaucoup, beaucoup de femmes auteurs. Donc, l'ancêtre, finalement, des poètes, la première femme autochtone à publier des éditions bilingues de ses textes en français et en innu, c'est Joséphine Bacon. Elle doit avoir autour de 70 ans maintenant. Elle a commencé à publier à l'âge de 50 quelques années seulement. Et son premier recueil s'appelait « Bâton de parole » parce que chez les Innu, il y a cette tradition, donc dans les réunions finalement pour décider qui va parler, on passe un bâton. Donc, son recueil s'appelle « Bâton de parole ». Et dans ce recueil-là, c'est vraiment son désir de transmettre la mémoire des anciens qui n'avaient pas de forme écrite. Donc, un peu, vraiment, c'est le même esprit. Au 19e siècle, les Canadiens français se sont dit « Bon, on vient de se faire dire qu'on était un peuple sans histoire, sans littérature. C'est pas vrai. On a une littérature, c'est juste qu'elle est orale. Il y a plein de folklore ici, il y a plein de légendes, il y a plein de contes. On va leur donner une forme écrite. » Ben, Joséphine Bacon, c'est un peu ça. Dans le fond, elle dit « La mémoire de mes ancêtres, elle est extrêmement vivante et moi, je vais lui donner une forme écrite, je vais la transmettre par ma poésie. » Donc, c'est une poésie, bien sûr, qui parle beaucoup, beaucoup aussi du territoire. Donc, je vais la retrouver, Joséphine Bacon, et je vais vous lire. Vous allez voir, c'est... Je ne vous lirai pas. J'ai la version bilingue, mais mon innu n'est pas au point. Donc, je vais me contenter de la version en français. C'est une poésie extrêmement, extrêmement nue, en fait, d'une très, 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 très grande simplicité. Je n'ai pas la démarche féline. J'ai le dos des femmes ancêtres, les jambes arquées de celles qui ont portagé, de celles qui accouchent en marchant. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Ce matin, il neige à gros flocons. Je m'attarde à mon rêve, je suis au pensionnat. Septembre, je pars avec mes parents sur le territoire. Je suis le saumon qui remonte les chutes et fraye les eaux pour la pondaison. Cette fois, impossible, car je dois apprendre à lire et à écrire. Mon savoir devra apprendre à prendre le temps. Je dois être absente de l'enseignement de mon identité. Aujourd'hui est aujourd'hui. J'enseigne mon identité dans une salle de classe. Je redeviens moi dans un rire. J'ignore si demain me gardera intacte. Je dis que l'espoir de se laisser être éloigne le désespoir. Donc, c'est sûr que la poésie des Autochtones va beaucoup dénoncer les situations d'injustice incroyables dans lesquelles ils ont vécu depuis beaucoup trop longtemps. Va parler aussi beaucoup de leur tradition, va beaucoup parler du territoire. Ici, on a une poète innu aussi, je pense, Marie-André Gilles, toute jeune, donc qui est vraiment parmi la plus jeune génération des poètes autochtones. Je crois qu'elle a peut-être autour de 30 ans. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que justement, elle veut... on a eu cette nécessité de dire tout ce qui nous a fait souffrir, de parler des pensionnats dans lesquels les enfants autochtones étaient envoyés, séparés de leur famille. On les obligeait à ne pas parler leur langue maternelle. Ils étaient complètement déracinés de leur culture. C'était un traumatisme de fou. Donc, on a eu besoin de parler de nos traumatismes, souffrances, etc. Besoin de nommer le territoire. Mais moi, j'ai hâte à une poésie qui va être capable aussi d'aller vers autre chose puis de s'ouvrir à autre chose. Puis encore là, je pense que c'est un peu le chemin que fait la littérature québécoise. la littérature québécoise des années 60-70 dénonçait l'oppression de laquelle on a été victime, revendiquait, claironnait en fait, notre désir d'être connu comme Québécois. On parlait de notre identité haut et fort pour vraiment être entendu. Et c'est un peu ce même parcours-là que sont en train de faire les auteurs autochtones. Donc, c'est très touchant d'être témoin de cette littérature-là qui est en train de se faire parce que moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont écrire dans 20 ans. Je connais des gens qui n'aiment pas du tout cette poésie-là en disant « c'est pas de la poésie, c'est trop, c'est pas assez recherché, etc. » Mais il y a 100 ans, ces gens-là écrivaient juste pas, tout simplement. Ils n'ont pas de tradition littéraire, là. Donc, en fait, c'est assez extraordinaire qu'on ait accès à leur voix maintenant. Donc, Marie-André Gilles. « Je plume les oies pour souper, comme je voudrais le faire pour toi, mais à l'envers. Te greffer des ailes qui marchent et des cris pleins la gorge, que tu puisses voir les fleurs sauvages de mon cœur cru, la médecine millénaire qui nous enveloppe. » Je me suis tentée dans le sens de monter sa tente. C'est la première fois que je fais comme ça. Je me suis tentée sur le bord du fjord, à quelque part de secret où il n'y a pas de chemin. Je tombe directement sur un phoque qui danse dans l'eau à côté de moi. Je lui crie « Salut, bébé! » Il fait un méchant saut et il s'en va. Durant la nuit, aucun vent. Je me fais réveiller par le souffle tranquille d'un troupeau de bélugas. Leur respiration est une berceuse nouvelle, un mélange d'immensité et de grâce, et ce qu'on ressent exactement, une gratitude étincelante, le mot « merci » en néon qui flash en haut de mes cheveux. Au lever, de la brume épaisse et du soleil dedans, la beauté du flou et de l'espace, les nuances de la voix dans l'air. Je veux prendre la brume pour ce qu'elle est, mais je ne peux pas faire autrement que de voir une peinture mouvante, irréelle, ponctuelle, un cadeau. Je me touche, je lis, un écureuil essaie de me grimper dessus, je suis une princesse dessinée en tabarnak. Je marche dans la forêt dense, je m'égratigne partout et j'aime ça vraiment. J'aime que mon corps se magane par le hors-piste, qu'il ait des traces comme des signes de fierté et d'autonomie, de force et d'endurance. Dans ces moments-là, je suis toute là, pas tuable, pas grand-chose et totale à la fois. Et ça me sort de ma vase. Plus je me rapproche de la nature, plus je me sens digne de sa voix, donc de la mienne. Le dehors est la seule réponse que j'ai trouvée au-dedans. Natacha Canapé-Fontaine, aussi un peu plus vieille que Marie-André Gilles, poésie souvent très politique, parfois proche du pamphlet. « Tu ne me glorifieras plus. Tu voleras le verbe « prier ». Tu renieras le jour où j'empoignerai l'arme pour enclencher ma mutation. Tu pointeras ton armée de terre pour irriter mes eaux ensevelies sous tes tutelles, terrains de golf et pinèdes. Tu verras tomber les ponts de passage, les voitures à la renverse, le feu pillant les champs de maïs. Tu avaleras mes grenades rouges, mes canneberges, mes saumons, mes truites, nos colères fumées. Tu goûteras ma joie, fruit de l'amertume, jus sucré de la révolte. Je me souviendrai. Tu reculeras mes corps, mes frontières. Tu brûleras les troncs de pin de bouleau. Je sangloterai une ritournelle, vieille litanie territoire, le père de mon père. Tu lapideras mon peuple, tueras l'un de ses pères venu parler à nos colères. Aucun ne prêtera l'oreille aux terreurs de se taire au sein de sa mère. Nous nous soulèverons, des foulards à nos visages, du rouge à nos lèvres, symboles anciens à nos dos. Je redresserai les portes de l'avenir, jetterai les battants des réserves, ouvrirai mon village au monde. Nous nous soulèverons, nous brûlerons les écoles, nos enfants devenus aïeux, nos aïeux devenus enfants. Je concocterai entre mes cuisses la formule de l'oralité, rédemption, notre île, nous apprendrons le nom de la terre. Donc, on voit quand même l'élan hein, dans ce texte-là, la force qui le porte. Voilà, qui fait quand même un peu le tour. Je fais juste peut-être finir en disant que la poésie orale aussi, un peu le voir dans les voiles au Québec. Je vous le dis parce que moi, c'est pas mal de là que je viens. Donc, je fais surtout de la poésie orale, même si le texte que je vous ai lu tout à l'heure, par exemple, est vraiment... Il est vraiment destiné à la lecture. Et donc, moi, je fais entre autres du slam. Donc, ça a toujours existé, la performance de poétique au Québec. À l'époque de Nelly Gant, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître, parce qu'il y avait un endroit qui s'appelait l'École littéraire de Montréal, qui était une société qui voulait réunir les gens lettrés. Ils se lisaient leur poésie entre eux et ils ont organisé quelques séances publiques où ils invitaient le gratin montréalais et le Émile Nelly Gant, bien entendu, qui était souvent absent des rencontres. Il était un jeune étudiant plus délinquant. C'était pas une école, mais je veux dire, bon, il manquait souvent les séances officielles, mais quand il y avait un public, il s'empressait d'être là. Et donc, il récitait ses poèmes, puis ils ont été bien reçus. Donc, ça, c'est des séances de récitation de poésie qui sont restées célèbres pour nous. Après ça, l'année de la poésie de 1970, qui a été répétée 1980-90. J'ai participé à une des dernières éditions au printemps dernier. Toutes des éditions avec beaucoup moins d'ampleur et de succès que celle de 1970. Ça n'a pas été... On a atteint ça encore. Beaucoup de chanteurs de la poésie en disque. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait beaucoup ici, mais nous, oui, ça se faisait déjà quand même dans les années 70, mais depuis le début des années 2000, vraiment très régulièrement. Donc, des livres, des disques qui vont sortir avec de la poésie. Un festival qui a été très important, un festival de spoken word, qui a vraiment contribué à créer des événements, un engouement pour des événements de poésie performés. Et depuis 2005 au Québec, donc le slam s'est né aux États-Unis, à Chicago, à la fin des années 80. C'est arrivé au Canada anglais avant chez nous, au Québec, depuis 2005. Et depuis ce temps-là, il y a une scène de slam. Beaucoup de slameurs sont des gens qui ont commencé à se faire connaître en faisant des compétitions slam, puis qui ensuite ont continué en faisant carrière en spoken word, en poésie performée, puis des fois qui passe à l'écriture, ensuite puis à la poésie écrite. Donc c'est quand même un peu ça aussi un tremplin pour des jeunes poètes. Beaucoup d'organismes aussi qui veulent faire sortir la poésie des livres scolaires, la faire sortir des maisons d'édition. Donc qui organisent des rues de la poésie où on affiche de la poésie dans les rues. Donc toutes sortes d'événements qui donnent l'occasion à des poètes d'aller prendre la parole devant un auditoire quelconque, des fois de 2 personnes, des fois de 500. Puis voilà, donc l'oralité quand même qui est vraiment importante. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous raconter.
Poétiquement Vôtre, votre émission du jasmin d'argent.